voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Déluge de critiques contre les États-Unis et la politique migratoire de Donald Trump qui sépare des parents arrivés sans papier aux États-Unis de leurs enfants. Le Mexique incite les élus républicains à prendre leur distance pour sauver leur siège aux élections parlementaires de mi-mandat. Washington a décidé de claquer la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, argumentant que qu'il contient ce conseil des membres qui violent les droits de l'homme et qui critiquent vertement Israël.
L'unité syndicale vole en éclats à la SNCF. L'UNSA a décidé hier de sortir du mouvement après le 28 juin, refusant de poursuivre en juillet la contestation de la réforme ferroviaire, au contraire de la CGT et de Sud, qui s'achemine vers une grève les 6 et 7 juillet prochains.
Une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés des grandes écoles. Leur taux d'emploi est en forte hausse, à son plus haut niveau depuis 2010. Emploi quasi garanti. Enfin, surtout pour les hommes, vous l'entendrez. Faut-il craindre les conséquences d'un ralentissement de la croissance? Ce sera l'objet du biais économique de Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une quinzaine de minutes. La France cache-t-elle la présence de forces spéciales françaises, donc, au sol, au Yémen? On posera la question à Georges Malbruno, grand reporter au Figaro.
Ils avaient déjà quitté l'accord sur le climat l'an dernier, étaient sortis de l'accord sur le nucléaire iranien. Cette fois, les États-Unis claquent la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nouveau repli face au multilatéralisme et aux institutions internationales. Ce retrait intervient au moment où l'administration Trump est vivement critiquée pour séparer des enfants de leurs parents entrés illégalement aux États-Unis, à la frontière avec le Mexique. Certains enfants vus derrière des cages, on va y revenir. Mais les États-Unis justifient aujourd'hui leur sortie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, car il ne pouvait plus tolérer les attaques incessantes contre Israël de la part d'un organe qui regroupe les pires violateurs des droits de l'homme. Les précisions de Pauline Simonet à Washington.
Ils s'y sont pris à deux pour faire l'annonce, deux figures de l'administration Trump, comme pour donner plus de poids à une nouvelle décision controversée. Et les mots sont durs. Pour Nikki Haley, la représentante des États-Unis à l'ONU, le Conseil des droits de l'homme est un cloaque d'hypocrites qui défend ses propres intérêts.
Depuis trop longtemps, le Conseil des droits de l'homme a été un protecteur de pays qui commettent des violations des droits de l'homme. C'est un cloaque de partis politiques. Ces pays continuent à être élu au sein de ce conseil, il n'a même pas tenu une réunion sur le Venezuela, parce que le Venezuela en est membre, idem pour Cuba ou pour la Chine. Ce conseil ne mérite pas son nom.
Mais le point de rupture avec Washington concerne Israël. Les États-Unis ne veulent pas être complices d'une organisation qui s'attaque sans cesse à leurs alliés, poursuit le secrétaire d'État Mike Pompeo.
La politique biaisée contre Israël est intolérable. Depuis sa création, le Conseil a voté plus de résolutions contre Israël que contre les autres pays du monde réunis.
Les États-Unis assurent que leur combat pour les droits de l'homme se poursuivra en dehors du Conseil. Mais après le retrait de l'UNESCO, de l'accord de Paris ou encore de celui sur le nucléaire iranien, la décision s'inscrit dans un mouvement de retrait. L'Amérique d'abord, de Donald Trump, inflige une nouvelle claque au multilatéralisme.
Et l'administration Trump fait également fi des critiques contre sa politique migratoire. Donald Trump a défendu une fois de plus hier sa politique de tolérance zéro aux frontières. Plus de 2300 enfants ont été séparés de leur famille entrée illégalement aux États-Unis depuis début mai. Alors qu'il était interpellé, et c'est assez rare pour le souligner, dans les couloirs du Capitole par un élu démocrate. Vous avez pourtant des enfants, monsieur le président. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous sépare de vos enfants? Donald Trump a préféré répondre hier aux journalistes en expliquant que les lois sur l'immigration était violée depuis des décennies aux États-Unis. L'ONU s'indigne, elle, d'une violation des droits de l'enfant. Et au Mexique, le ministre des Affaires étrangères a vivement condamné hier la politique migratoire de son voisin, les États-Unis. La correspondance d'Emmanuel Stills.
Quiero expresar nuestra más categórica y enérgica condena a una política cruel e inhumana.
Au nom du peuple mexicain, le ministre des Affaires étrangères, Luis Videgaray, a condamné la séparation des enfants migrants de leurs parents, une politique qu'il a qualifiée de cruelle et inhumaine. Le Mexique n'est certes pas le pays le plus touché par ce phénomène, mais le fait que ce drame se déroule à sa frontière est suffisant pour faire réagir son gouvernement. Il ne s'agit pas d'encourager la migration illégale, d'après le ministre Videgaray, mais de s'insurger contre une injustice faite aux enfants.
Nous lançons un appel au gouvernement des États-Unis, au plus haut niveau, pour qu'il reconsidère cette politique, pour accorder la priorité au bien-être et aux droits de ces enfants, indépendamment de leur nationalité et de leur statut migratoire.
Parmi les près de 2000 enfants arrachés des bras de leurs parents, une petite vingtaine sont mexicains et la plupart d'entre eux ont déjà pu réintégrer leur famille au nord ou au sud de la frontière. Comme le Mexique, les pays d'Amérique centrale, en particulier le Honduras et le Salvador, ont demandé aux États-Unis de mettre fin à cette politique que certains qualifient de torture.
Emmanuel Stills à Mexico pour France Culture. La souffrance psychologique des migrants à présent en France et des enfants en particulier, c'est une urgence de santé publique, alerte Médecins du Monde et le Centre Primo Levi. Les deux organisations demandent aux autorités d'agir car ces populations qui arrivent en France sont bien souvent en situation de fragilité psychique et ce sont les mineurs non accompagnés qui sont surexposés, Antoine Marette.
Il y a les traumatismes vécus dans le pays d'origine qui ont conduit au départ, il y a les violences souvent subies au cours de l'exil, et puis il y a la solitude, le déracinement et parfois la rue qu'il faut affronter une fois arrivé en France. Et ce sont les mineurs qui sont les plus vulnérables face à ces épreuves. Le docteur Philippe de Botton est président de Médecins du Monde.
C'est évident que les enfants, les jeunes, sont beaucoup plus touchés, évidemment, puisque d'abord ils sont souvent non accompagnés, donc souvent isolés, probablement maltraités, plus spécialement soumis à de plus grande vulnérabilité, en particulier en Libye. Et donc l'atteinte est beaucoup plus importante chez quelqu'un qui a 14-15 ans. Ceci étant, c'est très important de le détecter, de le diagnostiquer, parce que s'ils peuvent être pris en charge relativement tôt, leurs cicatrices et leurs séquelles seront beaucoup moins importantes.
Mais prendre en charge des mineurs exilés qui ne parlent pas toujours le français n'est pas chose facile. Daniel Breyer est psychiatre à Médecins du Monde, responsable de la mission mineurs non accompagnés à Paris.
On essaye avec ces mineurs de faire un travail de collectif, d'atelier thérapeutique ensemble, pour qu'ils puissent exprimer ensemble leurs souffrances et aussi qu'ils s'aident mutuellement pour se défendre par rapport à cette situation.
Sauf que Médecins du Monde et le centre Primo Levi estiment que face à ce défi de la prise en charge psychique des migrants, le système sanitaire français est sous-dimensionné, saturé et manque d'interprètes.
La question migratoire évoquée hier par Emmanuel Macron et Angela Merkel lors d'un conseil des ministres franco-allemands à Berlin. Paris et l'Allemagne sont d'accord pour renvoyer les migrants dans le pays où ils sont entrés en Europe, où ils ont été enregistrés, vers l'Italie pour un grand nombre d'entre eux. Et ils pourraient même installer des camps de transit, des centres de tri en quelque sorte pour migrants en dehors de l'Europe, en Afrique du Nord ou dans les Balkans. La question sera également au cœur aujourd'hui d'une rencontre entre le président du Conseil européen Donald Tusk et le nouveau chef du gouvernement italien, rencontre à Rome, Pierre Benazé.
Dans ses entretiens tout à l'heure à Rome avec le nouveau Premier ministre italien Giuseppe Conte, le président du Conseil européen devrait tenter de redonner vie à la négociation sur la politique migratoire européenne. Le gouvernement italien, tout comme celui de l'Espagne ou de la Grèce, reste cependant hostile à la solution sur la table, une répartition des migrants à travers l'Europe, mais seulement en cas de crise et au cas par cas. Ils estiment que ce n'est pas assez, ils réclament que ça devienne la règle. En face, les pays d'Europe centrale trouvent au contraire que c'est déjà beaucoup trop et qu'il ne devrait même pas y avoir de répartition en cas de crise. Certains envisagent donc ici une solution de repli qui consisterait à créer dans les Balkans des camps de transit ou de tri ou d'attente, comme on voudra, des camps destinés à abriter les migrants le temps que leur dossier soit instruit, tout en les maintenant à l'extérieur de l'UE. Certains utilisent même le mot « hotspot », un jargon vide de sens, mais qui a déjà été utilisé par l'UE pour retenir les migrants en Grèce et que les Européens préconisent depuis longtemps en Afrique, afin de retenir les migrants économiques et les dissuader de tenter le voyage vers l'Europe. Dans ces camps se trouveraient des centres d'information sur les possibilités d'accueil dans l'UE et des personnels habilités à ouvrir des dossiers de demande d'asile pour les réfugiés.
Et puis à 10 jours d'un Conseil européen crucial, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont accordés hier pour mettre en place un budget de la zone euro à partir de 2021 pour un montant à négocier encore avec les autres pays membres de la monnaie unique. On y revient dans le journal de 7h30.
Eh bien il est 7h09 Catherine, c'est la suite de votre journal et des matins de France Culture. Il n'y aura pas de grève unitaire cet été à la SNCF.
Les quatre principales fédérations de cheminots ne sont pas parvenues à se mettre d'accord hier à l'issue d'une réunion intersyndicale près de la gare de l'Est à Paris. La CGT cheminots songe à de nouvelles journées d'action les 6 et 7 juillet prochains. Au moins, des dates auxquelles réfléchit Sudrail, on va y revenir. La CFDT, elle attend la semaine prochaine pour se prononcer, mais la suspension de la grève cet été ne fait aucun doute. Une suspension déjà assumée par Roger Dillenseguer, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Il souhaite désormais se concentrer sur la négociation de la convention collective du secteur ferroviaire.
Force est de constater qu'on n'est plus tous sur la même ligne, on est voire même sur quatre lignes un peu différentes, ce qui fait qu'aujourd'hui l'unité syndicale n'est plus aussi forte qu'elle a été. Pour autant, on reste tous dans l'unité d'action à minima jusqu'au 28 juin. Pour la suite, nous on prend nos responsabilités, on annonce clairement qu'on sera dans l'action jusqu'au 28 et on ne sera pas en grève début juillet. Ce qu'on dit également, c'est qu'on va continuer à peser sur les négociations à venir. Les négociations à venir qui vont se dérouler maintenant sur la part conventionnelle dans le cadre des travaux de la convention collective. Nous on pèsera sur cette négociation.
De son côté, Éric Meyer, porte-parole de Sudrail, qui n'était pas favorable depuis début avril à un calendrier avec des jours de grève prévus à l'avance. Éric Meyer n'exclut pas des actions surprises cet été à des dates clés.
On a l'entreprise qui va annoncer la suppression de plusieurs milliers d'emplois en fret et de plusieurs dizaines de sites début juillet. Donc c'est la conséquence directe de la loi ferroviaire. Cet été, le gouvernement, lui, il fait pas de pause dans la rédaction des décrets, dans la rédaction des ordonnances. Et on sait qu'aujourd'hui, en l'état, la loi, elle est inapplicable. Elle a besoin d'être complétée par 9 décrets, une douzaine d'ordonnances. Donc il faut continuer la mobilisation pour peser, mais pas à peser, je veux dire, sur un calendrier strict et définitif. On veut trouver des dates de mobilisation qui font sens, qui donnent de la visibilité et qui redynamisent le mouvement.
Éric Meyer, porte-parole de Sudrail au micro d'Hakim Kasmi. Une bonne nouvelle pour les jeunes diplômés des grandes écoles. Leur taux d'emploi est en forte hausse à son plus haut niveau depuis 2010. Un emploi quasi garanti, enfin, surtout pour les hommes, Sonia Bourran.
Tous les chiffres, emploi, salaire, CDI sont à la hausse et c'est une très bonne nouvelle pour Anne-Lucie Vac, présidente de la conférence des grandes écoles.
Les diplômés des grandes écoles sont littéralement aspirés. Ils sont 6 sur 10 à être embauchés avant même la sortie de l'école, ensuite 9 sur 10, 6 mois après l'obtention du diplôme et puis ensuite on a le plein emploi.
Mais à diplôme égal, un homme a plus de chances de décrocher un emploi, 4 points de plus, et encore plus un CDI, 11 points de plus qu'une femme. Les indicateurs sont toujours beaucoup moins favorables aux jeunes femmes.
Elles s'insèrent moins vite sur le marché de l'emploi, elles ont moins de postes en CDI, moins de statut cadre et un différentiel de salaire qui est substantiel à l'embauche et qui s'aggrave au cours de la carrière. Qu'on en soit encore là en 2018, nous interroge, doit interroger tout le monde. On ne comprend pas qu'en 2018, on en soit encore là.
Et c'est incompréhensible aussi pour Peter Todd, directeur général d'HEC Paris.
D'autant plus si on regarde dans l'admissibilité, si on regarde juste sur les notes, etc. Elles réussissent très bien et également dans leurs études et on va avoir plus de femmes dans nos programmes que hommes.
Même dans les écoles d'ingénieurs, où les femmes sont beaucoup moins nombreuses, 30% seulement des étudiants, les entreprises ne se précipitent pas pour les embaucher.